C'était
Russe 49, radio utopique, sonore, éphémère, vitaminée, énergisée, stéroïdée.
C'était
49 heures de radio en direct en continu de l'ambassadeur.
C'était en août 2020.
Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
C'était bien plus que ça. C'était comme si on allait s'envoler. Tout de suite, sur Radio Panique.
J'avais 4 ans. Quand on s'en approchait, j'agrippais ma mère. C'était vertigineux. Je voyais ça comme un trou béant, sans fond, avec des parois si étroites, un gouffre. J'avais la trouille d'être absorbée dans cette cuve sombre, d'où pouvaient surgir les monstres. Un énorme poulpe mangeur d'hommes, ou peut-être des requins. J'avais une peur bleue, bleue profonde. D'ailleurs, la plus grande de mes angoisses, c'était les plongeurs. À chaque homme qui s'élançait en l'air, j'imaginais sa fin proche. 1, 2, 3. Je les priais en silence pour qu'ils regagnent le bord le plus vite possible. Aujourd'hui, il n'y a plus un monstre. Ma grand-mère me dit pourtant qu'elle n'a pas changé cette piscine. Rien n'a changé.
La vérité est dans la zone. La zone est dans la vérité. Le mensonge est hors zone.
Orgie de certitude.
La réalité est un espace. Ton espace est réel.
Le miel qui coule dans ta bouche est de la douce propagande.
Ton réel est la vérité. La vérité est la réalité.
La tonitruance est un miel ou un sirop.
La réalité est la vérité. La vérité est mensonge.
Et ton cerveau est la cible.
Le mensonge est la réalité. Ton espace est un mensonge. Ton mensonge est ta réalité.
Les communicants ont des armes.
Ta zone est à défendre. La défense est la réalité.
C'est pas seulement nos yeux qu'ils visent avec leur LBD. C'est pas seulement nos mains qu'ils explosent avec leurs grenades, c'est nos cerveaux qu'ils veulent mutiler.
La vérité est défoncée. Leur zone est la vérité. Le réel est dans la zone.
Leur propagande veut pénétrer mes rêves.
La zone est dans l'espace. L'espace est dans la réalité. La réalité est dans le mensonge.
Et si je continue, je vais aller vers mon truc un peu plus sexuel.
Le mensonge est hors zone. Le hors zone est hors vérité.
Des orgasmes d'ego.
La vérité est mensonge. Le mensonge est réalité.
La propagande est un anti-poème.
Tu connais Nicanor Parra ?
Non.
Alors Nicanor Parra, c'est un poète chilien qui est mort en 2014. C'est vraiment l'anti-poète. Et il est mort, il avait 103 ans. Il a écrit une anthologie de poésie qui s'intitule « L'antipoème ». Et voilà, il nous pose une question, il dit « Qu'est-ce que c'est un antipoète ?» Un négociant en urne et cercueil ? Un prêtre qui ne croit en rien ? Un général qui doute de lui-même ? Un vagabond qui se moque de tout, vieillesse et mort comprise ? Un interlocuteur de mauvais caractère, un danseur au bord de l'abîme, un narcisse qui aime tout le monde, un plaisantin sanglant, délibérément misérable, un poète qui dort sur une chaise, un alchimiste des temps modernes, ou bien un révolutionnaire de poche, un petit bourgeois, un charlatan, un dieu, un innocent, un villageois de Santiago de Chili. À vous de souligner la phrase qui vous semble correcte.
T'as encore des phrases, toi ?
Non, ça fait longtemps que je n'ai plus aucune phrase à donner.
Il n'y a pas de vérité. Non, la seule vérité, c'est celle de ton corps. Viens avec ton corps.
Ici, j'ai appris à chier sans déléguer ma merde à Veolien.
Ici, j'ai rêvé de me torcher le cul et j'ai commencé à le laver. J'ai arrêté d'avoir peur d'être dégoûté de toucher mon cul et ma merde.
Jusqu'à quand Extinction Rébellion va faire des clips comme ceux de l'armée française ?
C'est Paul Valéry qui disait que la propagande, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.
I'm thinking of all of you today. I know the rise in case numbers is causing fear and apprehension. People are frightened. And they're especially worried about their parents, their grandparents, their loved ones who are most at risk. You know, this virus is tough, but we can stop the spread. But it's up to all of us to do it. We have to step up and do both the simple things and the hard things to keep our families and our neighbors safe. Wear a mask, wash your hands, stay home if you can, and socially distance when you go out. I want every single American to know, if you're sick, if you're struggling, if you're worried about how you're going to get through the day, I will not abandon you. We're all in this together. We'll fight this together. And together, we'll emerge from this stronger than we were before we began. I'm Joe Biden, and I approve this message.
Un monde parfait, ce serait un monde sans propagande, mais moi, ce monde-là, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas le connaître.
Sauf que la sophistication et la perversion de leur communication nous imposent la fabrication de contre-récits.
Il faut reprendre les outils de l'ennemi. Par exemple, Nantes Révoltée utilise les mêmes techniques que la propagande institutionnelle pour diffuser une propagande insurrectionnelle.
Mais non, je ne veux pas produire de pathos.
Viens avec ton corps marcher dans les marais et les champs argileux. Viens avec ton corps écouter les récits des habitants.
Nous voulons des contre-récits.
On ne veut pas mentir.
On ne veut pas mentir.
Je ne veux pas produire d'images factices et sensationnalistes.
Être vrai.
C'était la guerre ici.
C'était la guerre.
C'était la guerre.
Ouais, c'était la guerre.
L'assainement d'images empêche la pensée.
Il faut contrer le rythme effréné du cut.
La vérité est un miroir explosé en milliers de fragments.
La vérité à tout prix, et au prix des autres vérités.
C'est par recomposition collective qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé.
Contre la séduction qui efface les autres imaginaires.
Comment on fait pour se parler et écouter si on est dans le zapping permanent ?
Dois-je me réduire à un spot de pub ou à une bande-annonce Netflix pour attirer ton attention ?
Il n'y a pas une seule réalité. Regarde cette gourde. Elle peut être vue de différents côtés. C'est le point de vue qui crée l'objet de la gourde. Pour obtenir la réalité, il faut croiser ses points de vue. Mais personne ne voit la réalité entière de la gourde.
Moi, j'ai pas compris cette histoire de la gourde. Vous pouvez m'expliquer ?
Eh bien, tu vois, tu poses la gourde là sur son cul. Et ce que tu vois d'elle, c'est juste la partie face à toi. Or, celle qui est derrière, elle existe aussi, mais tu la vois pas.
C'est une autre réalité.
Prendre le temps d'aller nulle part.
Pas forcément être dans l'activité permanente.
La propagande, c'est des pros en gang.
Many choosing to brave the freezing temperatures, and they camped out.
Earlier than early for President Trump's rally.
The temperature is still freezing cold out here. Last time I checked, it was 9 degrees.
My 401k is going up. Everything is going up. Thank you, Donald. I love you.
Colorado was founded by pioneers and prospectors, cowboys and miners who tamed the wilderness, explored the West, and helped make this the greatest nation ever to exist on the face of the earth. 75 years ago this week, our brave United States Marines landed on the shores of Iwo Jima. America is truly a land of heroes. Brave people, great people. This is a truly incredible time for America. We have the best economy in our history. We added another 225,000 brand new beautiful jobs last month. We are in the midst of the great American comeback. That's what we're doing. Our country is stronger today than ever before. While the extreme left has been wasting America's time, we've been killing terrorists, creating jobs, raising wages, enacting fair trade deals, securing our border, and lifting up citizens of every race, color, religion, and creed. At stake in our present battle is the survival of our nation. Now you have a president who is standing...
Notre rêve des Landes.
Tu fais ce que tu veux. Tu prends le temps d'aller nulle part. N'est-ce pas la meilleure des anti-propagandes ?
Chaque territoire peut créer, parce qu'il n'y a pas un seul modèle.
Vive l'autogestion ! Pas si elle est hors sol.
On pourrait remettre un peu des cabanes toujours détruites et toujours reconstruites.
Référendum.
C'est quoi cette histoire de référendum ?
En fait, l'État a voulu légitimer démocratiquement l'aéroport, tu comprends ? Il fallait que les citoyens votent oui à l'aéroport. Alors, ils ont dit référendum. Et donc, ils ont délimité un espace autour de l'aéroport, bien précisément. Et ils ont calculé de façon à ce que le oui l'emporte. Mais ici, à Notre-Dame-des-Landes, ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait des affiches, non à l'aéroport. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est dans un endroit qui s'appelle le Gourbi. Benji en a parlé tout à l'heure. Cet endroit qui a été un endroit central dans la lutte. Et le Gourbi, qui était un endroit qui a été détruit, puis une cabane a été refaite, et puis une autre cabane a été refaite, et puis une autre cabane a été refaite. Et le jour du référendum, ils se sont dit, on va faire un dôme. Et donc les gens, ils sont venus avec du torchis, et puis il y a eu de la musique et des musiciens, et c'était le principe de refaire un dôme.
Prise au mot du réel.
Multiplicité des actions, multiplicité d'êtres.
Des luttes très différentes, des modes d'action différents, une anti-propagande multiforme.
Face aux propagandes, le son fait souvent vérité. Le son seul, plutôt que l'image seule. Et puis là, en fait, dans ce compte-rendu qu'on vous lit, là, qui sont les discussions qu'on a eues autour de la préparation de ce moment, de ce plateau, comme on dit ici à Utopie Sonore, autour de la question qui était au départ titrée contre-propagande, et on s'est dit, nous, on ne veut même pas faire de la contre-propagande, on veut faire de l'anti-propagande. Et là, dans le compte-rendu, mais là, ça a sauté, parce que c'est ça la magie et les esprits de la forêt, parce que la forêt est toute proche, elle est de l'autre côté de la petite route. Et elle s'appelle Juan, la forêt. Ouais. Et bien, Juan, il a fait que la phrase a sauté. Mais il y avait une phrase de Martin qui disait, Martin, la communication politique, elle est arrivée dans les années 80. Et on s'est dit, mais c'est quoi ça ? La communication politique, elle est arrivée dans les années 80. Et c'est vrai que l'image de Mitterrand est arrivée. Et puis, à côté de Mitterrand, il y avait Séguéla. Voilà, Séguéla. Et puis, Thierry, qui avait proposé cet atelier autour de l'idée de contre-propagande. Thierry, toi, tu... d'ailleurs, voilà, c'est... pourquoi tu as voulu nous proposer ça, d'ailleurs ?
Ouais, parce que pendant le confinement, je m'étais intéressé à la façon dont la communication politique du gouvernement fonctionnait. Et j'ai essayé d'en savoir plus parce qu'ils nous ont fait quand même passer des trucs énormes. Et je me suis dit qu'il fallait, il fallait des techniques extrêmement perverses pour arriver à ça. Et donc j'ai découvert qu'à l'Élysée, il y a la direction de la communication qui existe depuis toujours. Aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes qui viennent de la publicité, de chez Havas, par exemple, des archives du ministère de la Défense, c'est plutôt des historiens, la communication chez BNP, donc faire le travail des banquiers, et aussi de la production et de l'écriture de séries télévisées.
Du storytelling, quoi.
Ouais, c'est les as du storytelling en France qui ont été recrutés pour occuper quotidiennement les médias avec des nouvelles histoires. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le quinquennat de Sarkozy, il bosse à l'intérieur de l'Élysée avec un nouveau service qui a été créé sous Sarkozy. C'est la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et là, c'est des militaires et les renseignements généraux qui travaillent ensemble et qui collaborent avec le service communication. Et ce qui s'est passé pendant la cacophonie du confinement et du Covid, c'est qu'ils ont réussi à empêcher que la presse évoque le sacrifice des personnes âgées qui sont en EHPAD et à qui l'accès aux services hospitaliers a été refusé parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. Donc ils ont été sacrifiés et pendant qu'il y avait un décret ministériel qui autorisait à écourter leur agonie par adjonction de sédatifs et de produits vétérinaires. C'est-à-dire que dans les pharmacies, il n'y avait plus assez des sédatifs habituels qu'on administre aux personnes en phase terminale, et ils ont autorisé qu'on ajoute des produits vétérinaires. Et toute cette... c'est quand même des décrets ministériels pour donner la mort à des personnes âgées qui sont isolées, qui n'avaient pas le droit de voir leur famille, qui n'ont pas eu le droit de leur dire au revoir. Et ils avaient un service communication qui fonctionnait avec le service des renseignements. Et dès qu'il y avait un lanceur d'alerte qui essayait d'alerter sur ce fonctionnement dans les EHPAD, qui étaient devenus des mouroirs, en fait, la personne se voyait opposer une campagne de presse pour la dénigrer. Mmh. Que ce soit des directeurs d'EHPAD, il y en a eu, des directeurs de services hospitaliers ou des journalistes comme Denis Robert. Mmh. À partir du moment où ils ont prononcé le mot mouroir, où ils ont dénoncé ce décret ministériel, ils se sont rendus compte que il y avait une campagne qui était organisée contre eux et qui partait de ces deux cellules qui travaillent maintenant main dans la main. Et là, je me disais qu'on était passé à une propagande extrêmement agressive, extrêmement blessante pour ceux qui la subissent. Tout sortait, la vie privée, les ratés professionnels... c'était l'horreur, en fait. Et c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour faire taire les lanceurs d'alerte.
Mmh. Ouais, parce que en fait, ce que tu dis aussi, c'est du coup les politiques et les journalistes, on sait depuis longtemps qu'ils sont main dans la main, mais là, il y a un troisième personnage, c'est les services secrets. Du coup, là, et c'est vrai qu'on l'a vu, là, la Mediapart, ils ont diffusé des trucs autour de Squarcini, qui est un ancien des services secrets, qui est passé chez LVMH. Et en fait, voilà, c'est il y a une espèce de collusion, puis c'est... c'est genre, je t'appelle pour savoir, pour sortir le dossier de telle personne, et puis je refile ça et on monte du dénigrement. C'est-à-dire que là, on est passé.
Ouais, là, il y a eu une prise de guerre de la part de Mediapart. C'était les écoutes juridiques. Ils les ont diffusées. On peut les écouter sur leur site. Et on se rend compte que tout passe par téléphone. Donc, il n'y a pas de trace écrite. Manque de peau, ils étaient sous écoute juridique. Et Et ils s'appellent, ils sont copains, ils vont à Roland-Garros ensemble, ils déjeunent ensemble dans les meilleurs restaurants et ils organisent toute cette circulation d'informations en appelant directement les journalistes dont ils ont les 06. Et maintenant, les renseignements généraux en France qui font des fiches sur des opposants, quel qu'il soit, que ce soit Ruffin, que ce soit des syndicalistes, ils passent ces fiches à Squarcini, qui a monté une agence pour protéger LVMH. Et donc on est dans une espèce de mutation où l'État travaille pour le privé. Et ce travail de renseignement ne sert pas du tout qu'au service de l'État, mais aussi aux entreprises.
Voilà. Alors quelle forme on choisirait pour raconter ce pourquoi on est prêt à se battre ?
Pour rendre un espèce de réflexion, un temps qui rend les gens disponibles, sans les forcer à adhérer ?
On ne veut pas de leur tonitruance.
Majorelle me fait un toucher.
Ton cerveau est la cible.
Tu connais Majorelle ?
Alors Majorelle, c'est une de ces agences qui travaille pour des ministres, pour des oligarques russes qui viennent investir en France, pour des people, comme on dit, et pour des entreprises, et qui s'est spécialisée dans la défense quand il y a des affaires juridiques, que l'image est un peu salie. En fait, ce qu'ils proposent, c'est des contrats pour redorer le blason de ces personnes qui sont traînées en justice, quoi. C'est une de leurs spécialités. Ce qui est intéressant, pardon, je te coupe.
Je t'en prie.
C'est que dans leurs employés, non seulement il y a d'anciens communicants des ministères ou de l'Élysée qui passent dans le privé, et qui montent des boîtes et pour se servir des salaires mirobolants. Mais il y a aussi d'anciens flics qui ont encore des permis d'armes et qui font de la protection rapprochée. Donc c'est une agence qui assure la protection de personnes attaquées dans la presse pour leur malversation, pour leur délit d'initié, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est un packaging pour protéger la personne privée d'une tentative d'assassinat, par exemple, et en même temps de la presse qui salirait l'image et la réputation d'un notable.
C'est vrai. Les communicants ont des armes.
Et ce n'est pas seulement nos yeux qu'ils visent avec leur LBD. Ce n'est pas seulement nos mains que leur grenade explose. C'est nos cerveaux qu'ils veulent mutiler maintenant, à coup de propagande. Ni propagande, ni contre-propagande, mais anti-propagande.
Et la propagande est un anti-poème.
Oui, ben ça me fait encore penser à Nicanor Parra, et il a donc écrit de l'anti-poésie.
Du coup, tu veux dire que Nicanor Parra est un anti...
C'est un anti-poète.
Un anti-poète, mais comme donc un propagandiste, alors.
Et c'était un opposant politique redoutable au Chili. Il est resté au Chili sous Pinochet et il a gardé sa liberté de parole et il écrivait absolument ce qu'il pensait, mais sous forme de poème. Alors on croit souvent que la poésie est inoffensive, sauf que ses poèmes, à lui, attaquaient la dictature frontalement.
C'est vrai. Oui, il est toujours resté un poète révolutionnaire, extrêmement politisé, engagé. Sa sœur, c'était Violeta Parra. Je ne sais pas si vous connaissez, elle écrivait des chants révolutionnaires aussi. Et du coup, c'est quelqu'un qui a toujours été un grand combattant, Nicanor Parra. Et c'est Roberto Bolaño qui adorait ce poète. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi un des plus grands écrivains qui soit. Et il l'a rencontré, c'était vraiment son rêve de rencontrer Parra. Il faut vraiment lire sa poésie. C'est une poésie, c'est une anti-poésie sublime. Et donc, dans un poème, il se pose la question, il se dit, qu'est-ce que l'antipoésie ? Et il essaie de répondre et il dit, une tempête dans une tasse de thé, une tache de neige sur un rocher, un plateau plein d'excréments humains, comme le croit le père Salvatierra, un miroir qui dit la vérité, une gifle au visage du président, un avertissement au jeune poète, un cercueil à réaction, un cercueil à force centrifuge, un cercueil à gaz de paraffine, une chapelle ardente sans défunt. Si vous avez la réponse, marquez d'une croix la définition qui vous semble correcte.
Bertrand Russell, philosophe libertaire et mathématicien britannique, écrivait en 1922, donc il y a à peu près 100 ans. Je pense qu'il faut reconnaître que les imperfections de notre monde sont dues à des défauts moraux tout autant qu'au manque d'intelligence. Mais la race humaine n'a pas jusqu'ici découvert le moyen d'abolir les défauts moraux. Les sermons et les exhortations ne font qu'ajouter l'hypocrisie à la liste des vices. Au contraire, on peut facilement améliorer l'intelligence par des méthodes connues des éducateurs compétents. C'est pourquoi jusqu'à la découverte de quelques méthodes d'enseignement de la vertu, il faut essayer de faire des progrès par l'amélioration de l'intelligence plutôt que de la morale. Un des obstacles principaux que rencontre l'intelligence est la crédulité envers l'enseignement des formes dominantes du mensonge. La crédulité est un mal plus grand actuellement que jamais, car grâce à l'expansion de l'éducation, il est beaucoup plus facile qu'autrefois de répandre de faux enseignements. Et grâce à la démocratie, les faux enseignements servent dans une plus grande mesure aux tenants du pouvoir.
La morale est la faiblesse de la cervelle. Rimbaud.
Vous imaginez, C'est vraiment l'image de notre pays, c'est quelque chose qui nous touche au cœur, c'est plus qu'un symbole, on se sent tous meurtris, blessés. Je comprends que le chef de l'État est tout interrompu, c'est quelque chose qui est grave, c'est par-delà le symbole, on est touché en plein cœur aujourd'hui, enfin, vous le sentez, notre émotion. Et de voir ces images de Notre-Dame de Paris en flammes, c'est quelque chose qui pour nous, Français, est assez insupportable. Enfin,
et d'entendre ces sons de Notre-Dame des Landes qu'on fabrique en bande. Pour une blague mal.
Brice 49,
la radio qui fait mal.
Et on respire.
C'était en août 2020, sur la ZAD de Notre-Dame des Landes. C'était des sauts dans le vide, des grandes largeurs, des sons qui louchent. Des bouts de plein, des bouche à bouche. C'était 49 heures de radio, non-stop.
Encore.
C'était bien plus que ça. C'était comme si on s'envolait. Enfin.
Alors là, bravo, vous avez bien travaillé. Et puis si vous continuez comme ça, vous allez voir les progrès, la vitesse à laquelle ils vont arriver.
Utopie sonore.
Et ça, c'est vrai, Véronique a raison. Nous, on constate que vous êtes formidable.
Sur
à
Radio
la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.